Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et à 8h17 ce matin, notre invitée Lisa Louanchy, elle est conseillère fédérale des jeunes socialistes d'Ille-et-Vilaine. Elle est venue tout spécialement de Rennes pour être avec nous ce matin pour cette première radio, je crois. C'est un peu votre baptême du feu, mais tout va bien aller, hein, je vous rassure. On va parler de politique. Bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon.
Alors, la politique en ce moment, c'est un petit peu chahuté. Il y a beaucoup d'interrogations sur le budget. On a un paysage politique très fracturé. Comment justement les jeunes socialistes, j'allais dire, surnagent dans cette situation politique très compliquée, très complexe ?
Ah oui, effectivement, on est dans un contexte, un paysage un petit peu, même chaotique, je pense qu'on peut dire.
Oui, chaotique, le mot est souvent employé.
C'est quand même une grande mission, je trouve, des jeunes socialistes d'essayer de trouver leur place. Pour la majorité d'entre nous, on n'a pas, ou on était quand même très très jeunes au moment de connaître la gauche au pouvoir et un peu les facilités, on va dire, électorales. C'est un peu loin derrière nous. On est plutôt là, forcément, dans un objectif de reconquête de l'électorat de gauche, de conquête en général de l'électorat, parce que c'est ce qu'il nous faut. On a des combats, beaucoup de combats à mener. Donc effectivement, c'est un contexte qui est compliqué et qui... amène à des doutes, des questionnements, puis aussi un besoin de rigueur, de méthodologie aussi pour mener tous nos combats. En revanche, de ce que j'observe dans le 35 et partout sur le territoire, on le fait avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'espoir aussi. C'est même le slogan là, des jeunes socialistes en ce moment, bâtissons l'espoir. Donc c'est compliqué, mais il faut se dire qu'on y croit et qu'on va y arriver.
Alors justement, c'est compliqué. Vous en voulez, alors je ne sais pas si le terme est peut-être un peu fort, mais à vos devanciers de ne pas avoir traité certains sujets ou d'avoir peut-être oublié un certain électorat. On pense à l'électorat populaire, on pense aux ouvriers en particulier. Est-ce que vous leur en voulez ? Est-ce que vous leur le dites aussi, parfois ?
Alors leur en vouloir, non, évidemment. Ce serait quand même très dur parce que il faut quand même qu'on soit à leur place pour pouvoir estimer si on aurait fait mieux ou pas, ce qui n'est pas le cas. En revanche, c'est vrai que on se gêne pas pour leur dire. Je pense qu'on a un rapport avec eux qui est très finalement presque familial, un peu parent-enfant.
Ils pourraient
dire peut-être parfois.
Plus direct,
ouais, c'est ça,
peut-être.
Tout à fait. Peut-être que nos vieux, je fais des guillemets, comme on les appelle affectueusement, pourraient dire qu'on est peut-être ingrat parfois parce que trop tranché, mais je pense que c'est notre rôle aussi d'incarner ce flanc radical qui chouine tout le temps, qui veut toujours pousser plus loin et puis qui tape un peu du poing sur la table ou qui claque les portes quand il n'est pas content. Mais on sait très bien que tout ça, c'est finalement pour œuvrer. Et comme je disais, c'est un peu un rapport presque familial. Et évidemment, on reste une famille et il n'y a rien qui saurait nous diviser et vouloir ou reprocher quoi que ce soit aux générations passées.
Alors, on voit au Parti Socialiste, comme ailleurs, et vous en êtes l'incarnation, qu'il y a une féminisation, qu'il y a un rajeunissement. C'est un petit peu tous les partis politiques, alors avec plus ou moins de volontarisme. Mais est-ce que c'est une bonne chose, justement, qu'il y ait un renouvellement politique, qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive, qui est peut-être un petit peu plus directe, on l'aura compris. Est-ce que c'est une bonne chose pour la politique, et peut-être pour essayer de contourner les grands problèmes du moment ?
Ouais, moi je vais être assez directe. Oui, évidemment que c'est une très bonne chose. On a besoin, je pense, d'une nouvelle génération qui, vous le disiez en plus, est plus féminisée. Je pense qu'on pourra y revenir, mais
c'est un enjeu. On va en parler.
C'est un enjeu majeur pour nous. Après, c'est vrai que ça pose cette question qui est la question de la transmission aussi. C'est que on arrive, on est très jeune, on n'est pas forcément formé. Vous le disiez, c'est ma toute première radio. On n'a pas toutes les cartes que nos plus anciens ou les gens qui se sont formés avant nous ont. Et je pense que c'est un vrai enjeu de la part de la génération d'au-dessus comme de la nôtre, de réussir à créer ce lien et intensifier ce lien pour que les combats qui doivent être menés à partir d'aujourd'hui et demain puissent l'être par la nouvelle génération qu'on représente, mais qu'on continue en fait à avoir en tête les combats qui sont passés, les grands conquis qu'on a pu obtenir. Et je pense que c'est important qu'il y ait cet équilibre-là.
Alors justement, cet équilibre, cette fraîcheur, elle va amener au combat, vous le disiez, à venir. Les combats à venir, ils sont d'ordre social, ils sont d'ordre économique, ils sont d'ordre sociétal aussi. Quel est le combat du moment au Parti Socialiste en ce moment, en tout cas porté par les jeunes ?
Alors, porté par les jeunes, là, ce qu'on... Alors, il y a beaucoup de choses, on est sur tous les fronts. Et il faut l'être, et je trouve que c'est une très bonne chose. On est une équipe nationale qui œuvre sur des trajectoires très transversales. L'idée, c'est d'avoir un éventail d'actions et d'interrogations aussi le plus large possible. Là, moi, ce qui me vient en tête et ce qui me tient particulièrement à cœur, il y a nécessairement la question des municipales, évidemment.
On va en parler aussi des municipales tout à l'heure.
J'imagine bien. C'est quand même quelque chose de très structurant chez nous. Là, les jeunes socialistes ont sorti le livre blanc des municipales qui se veut un petit peu une aide, un guide, un appui pour les jeunes qui veulent être candidats, parce que c'est ça aussi, nous, nos combats, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus possible de jeunes sur les listes qui soient élus. Après, j'ai envie de vous dire, peu importe le mandat, là évidemment on est dans les municipales, qui est un mandat qui est très privilégié de par la proximité avec l'électorat. Mais donc on essaye de pousser les jeunes au maximum, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils avancent et qui, voilà, comme on disait, qu'ils prennent une part dans les partis politiques et dans la scène politique. Après, effectivement, les combats des jeunes sont indissociables des combats de la gauche et du Parti socialiste. Peut-être qu'on y reviendra et je ne vais pas trop m'étendre maintenant, mais c'est vrai qu'il y a un peu une dualité entre nous travailler à faire en sorte que le débat politique se ressente sur ce qui pour nous est vraiment important, donc c'est-à-dire les services publics, les acquis sociaux, aussi le développement durable, le féminisme, la lutte contre les LGBTQ-phobies. Tout un pan qu'on veut mener, nous. Mais il y a aussi l'autre partie de la dualité qui est de dire, en fait, on ne peut pas faire fi de ce qu'est sur la scène politique en ce moment, la sécurité, l'immigration, qui sont évidemment des faux problèmes, mais qu'il faut aller chercher aussi et pas laisser ce pan-là, surtout à l'extrême droite. Et donc, voilà, on avance un peu en ayant la charge d'être sur tous les fronts, je dirais.
Alors justement, tenez, on va parler des sujets qui fâchent, l'immigration, la sécurité. Vous dites qu'il ne faut pas laisser ces réflexions, en tout cas les solutions qui pourraient être prises par tel ou tel gouvernement futur, à l'extrême droite. L'extrême droite, c'est toujours le combat justement de la jeune génération au Parti socialiste, et particulièrement sur ces questions de sécurité. On pourrait y ajouter évidemment le trafic de stupéfiants qui est important à Rennes. Vous avez des propositions là-dessus aussi, vous avez des idées pour avancer sur ces sujets-là, qui sont des sujets, permettez-moi le terme, il est peut-être un peu direct, mais casse-gueule.
Ouais, bah tout à fait. Bah, en fait, ils sont casse-gueule parce que il faut prendre notre part de responsabilité là-dedans. On s'est débrouillé pour qu'ils le soient pour nous. Là où c'est, vous me permettez l'expression aussi, du pain béni pour l'extrême droite. Alors effectivement, on a beaucoup de travail, mais il y a une intransigeance totale évidemment des jeunes et du Parti socialiste et de la gauche en général envers l'extrême droite. Faut pas se tromper d'ennemi. Il faut vraiment. Enfin, on n'a pas de. On n'a pas de sujet là-dessus. Je pense que les autres débats sont des faux débats. Notre vrai combat, surtout aujourd'hui, c'est la lutte contre l'extrême droite et même en général contre cette démagogie et ce populisme qui veut qu'on va induire dans le discours ces faux problèmes-là, comme on en parlait, oui, la sécurité, le narcotrafic, qui sont effectivement des questions qu'il faut se poser. Mais il faut trouver un équilibre qui est sain et qui est raisonnable entre le problème tel quel, comme il existe, et les solutions opérationnelles qu'on peut y trouver, et que, on parlera plus de Rennes tout à l'heure, mais que Nathalie Appéré et son équipe mettent en œuvre tous les jours pour précisément pallier tout ce souci-là. Et le côté un petit peu romancé, comme je disais, populiste aussi, des médias qui se servent de ça aussi, pour gangréner et pour plaire, en fait, finalement, pour dire ce qui plaît en ce moment, pour dire dans la tendance et faire des belles phrases qui vont plaire, qui vont inquiéter, qui vont en plus renforcer ce climat d'inquiétude et de méfiance qui force un peu les Français à se méfier les uns des autres constamment. Et c'est contre ça qu'on lutte aussi, voilà, trouver un équilibre qui est raisonné pour avancer, pour combattre au mieux, en fait.
Voilà. Au-delà du climat anxiogène, alors il n'est pas seulement franco-français, on l'a vu avec la géopolitique, les propos de Vladimir Poutine il y a quelques jours. Là aussi, il y a une interrogation de la jeunesse sur ces changements mondiaux. On passe un petit peu de l'échelle municipale à l'échelle mondiale, mais cette géopolitique, l'influence par exemple des États-Unis, les guerres qui se passent à nos portes, on pense à l'Ukraine, on pourrait penser aussi au Moyen-Orient. Est-ce que là aussi sont des sujets anxiogènes, mais qu'il faut essayer de traiter avec pragmatisme, essayer de comprendre aussi?
Ah bah tout à fait. Alors, je vais anxiogène, oui, évidemment. Il y a quand même là beaucoup d'études et on n'est plus étranger au fait que la santé mentale des jeunes est un sujet très préoccupant.
Voilà, c'est là où je voulais en venir finalement.
Voilà, c'est ça. En fait, on évolue dans un climat qu'on ressent presque pré-apocalyptique, en fait, pour certains. Si ce n'est pas pré-apocalyptique, c'est très mauvais. C'était le premier mot de l'entretien, un truc chaotique. Donc je pense que oui, il y a quelque chose de très anxiogène qui est alimenté par les médias, qui est alimenté par le fait qu'on... Les jeunes ont peur, parce qu'ils ont peur effectivement de Vladimir Poutine, de tout ce qui peut se passer, de ce climat un petit peu belliqueux qu'on ressent en ce moment dans le monde, mais qu'on ressentirait moins si tout allait bien dans nos vies. Et en fait, le fait d'avoir... Alors, je digresse un peu et on y reviendra, mais le fait d'avoir du mal à se loger, le fait d'avoir du mal à se nourrir, le fait de pas savoir quelles études, quel premier travail faire, n'aide pas à se sentir bien. C'est couplé à ça avec des grandes chaînes de télévision qui, après... voilà, en fond 24 heures sur 24, un fond de commerce de ce climat belliqueux très anxiogène, effectivement, bah, ça crée des problèmes de santé mentale, ça, voire des troubles qui sont très délétères pour les jeunes. Donc effectivement, il y a un climat qui est très anxiogène. Et effectivement, ça, je pense que c'est un peu notre ADN socialiste aussi. Les réponses qu'on y apporte, elles doivent être raisonnées. Parce que c'est la seule raison pour qu'elles soient opérationnelles et pour qu'elles puissent tenir dans le long terme. Et pour qu'elles soient... effective, et pas seulement des belles promesses, des beaux discours qui, je pense, ne mèneront à rien par la suite. Donc on a besoin de ce raisonnement, on a besoin de cette compréhension aussi, des enjeux qui ne sont pas forcément faciles, ou si ce n'est pas facile, c'est, on va dire, clarifié à première vue, précisément dans ce souci-là aussi de rendre le truc un peu sibyllin, un peu étranger à tout le monde. En revanche, ça nécessite quand même une certaine fermeté. Être raisonné, ça ne veut pas dire ne pas réussir à prendre part et ne pas réussir à se positionner aussi clairement. Là, les deux plus gros enjeux, on va dire, mondiaux, en tout cas des combats qu'on mène aussi chez les jeunes socialistes et au Parti socialiste, c'est effectivement la guerre en Ukraine, sur lequel on a beau avoir une réponse raisonnée et, on va dire, stratégique, il faut être ferme. Et évidemment, c'est une guerre, mais c'est surtout une attaque russe sur le sol ukrainien. L'Ukraine se défend, l'Ukraine a le droit de se défendre. C'est aussi indirectement une attaque envers l'Union européenne et l'OTAN. Donc, nous aussi, il y a un nombre croissant de cyberattaques russes sur la France. Là, ça a été décuplé, là, juste ces dernières années. Donc, en fait, enfin, surtout 2024-2025. Donc, en fait, on a besoin d'être très tranchés. Et c'est aussi, alors, un sujet, vous le disiez, un sujet un peu casse-gueule, si vous me permettez. Mais ce qui se passe au Moyen-Orient, il a fallu du temps aussi. Voilà, on a des députés qui travaillent aussi à cette question-là sur le conflit entre Israël et la Palestine. Et il a fallu du temps aussi. Mais maintenant, c'est fait. Notre premier secrétaire, et j'en suis très fière, dit que c'est un génocide ce qui se passe en Palestine. Et je pense qu'il faut porter ça. Ça n'empêche pas qu'après, on cherche des solutions qui sont très diplomatiques, très stratégiques et le plus applicables possible et qui ne sont pas, en fait, finalement, démagos et faciles à...
Il faut travailler dans l'ombre un petit peu. Il faut donner la place à la diplomatie dans ce cas-là.
Tout à fait. Et je pense que c'est ça le travail des commissions qui sont faites au sein du parti par rapport à ça. Je pense à la députée Anna Pic, qui fait un travail formidable, que j'ai eu la chance de rencontrer cet été à l'université du Parti Socialiste, qui fait un travail formidable sur cette question-là et qui œuvre et qui, vraiment, on le voit, essaye d'apporter des solutions concrètes et durable, en pensant évidemment au bien-être des populations. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. On peut être raisonné, on peut avoir une approche de travail plus de l'ombre et moins démago, moins plaisant à entendre aussi, tout en étant tranché dans ce qu'on pense et dans ce qu'on fait.
On parlait de climat anxiogène. Alors, on a entendu le président de la République s'exprimer. On a entendu le général Fabien Mandon s'exprimer devant le Congrès des maires en disant, voilà, il faudra qu'on s'habitue peut-être à avoir une guerre sur le territoire européen à l'orée de 2030. Il faudra peut-être aussi accepter le sacrifice de nos enfants. Comment vous recevez ça? Comment vous recevez ces paroles, vous, la jeune génération et les jeunes socialistes en particulier?
Alors, je vais commencer par un peu faire une redite. C'est ce climat très anxiogène. C'est qu'en fait, évidemment, ça participe de cette atmosphère qui est presque malsaine, en fait, si on veut dire un truc où on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose de catastrophique. On dit non, mais menez vos vies quand même normalement. Par contre, il est possible que vous soyez de la chair à canne. Donc, il y a forcément ce truc-là qui est très anxiogène, qui est très malsain et qui, en fait, n'aide pas à se sentir bien et à avoir envie aussi de se battre pour son pays et de défendre son pays. Après, je pense aussi qu'il faut regarder la réalité en face et qu'on est très surveillé par la Russie, par des partenaires qui ne sont qu'à moitié, par...
Faites allusion un petit peu aux États-Unis, à Donald Trump.
Exactement. Et je pense qu'on est très surveillé et je pense que c'est nécessaire aussi que nos dirigeants, nos représentants tiennent ce propos-là aussi, de dire on est prêt. On est prêt et on a une population qui est prête aussi. Bon, en interne, c'est pas forcément vrai, ou du moins ça pose des questions, mais c'est important qu'on fasse corps quand la menace est grande.
Avec le retour du service militaire, alors pour quelques-uns qui ont l'âge que j'ai, ça évoque quelque chose, mais pour vous, pour votre génération de jeunes femmes, de jeunes hommes, le service militaire, c'est plutôt quelque chose d'envisageable, ou là aussi, il y a une forme, allez, je vais dire, de réserve.
De réserve, le mot est bien choisi, précisément.
Oui, le mot est bien choisi, ce n'est pas le jeu de mots, mais voilà.
Non, alors, il y a effectivement une forme de réserve, même j'irais plus loin, une forme de contestation, parce que c'est pas le principe en tant que tel d'avoir un service militaire, parce que si on interroge, si je peux me permettre, votre génération, c'est pas toujours forcément quelque chose de négatif, le service militaire, c'est que ça permettait de créer du lien aussi entre des personnes qui se connaissent pas, qui viennent d'endroits géographiques, sociaux très différents. Et donc, il y avait
un brassage social, c'est ça,
exactement. Et j'ai l'impression que ça laisse parfois des bons souvenirs aussi, et que ça a pu être utile pour faire corps au niveau de la société. En revanche, ce qui est, je pense, inadmissible, et ce qu'il faut qu'on mène, nous, en cheval de bataille, c'est que, quitte à ce qu'il y ait de nouveau un service militaire, il faut qu'il soit en cohérence avec les besoins, avec les inquiétudes des jeunes et de la population en général. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si on vend ça comme vous préparez à être de la chair à canon pour que vous soyez d'office réserviste, pour que vous n'ayez pas votre mot à dire, bah, effectivement, avec l'histoire de ce pays, on se sent... Ça ne va pas valoriser un projet de société là où ça pourrait l'être, finalement.
Donc, occulte, justement, un projet de société Tout ce côté anxiogène, là.
Complètement, mais je pense même honnêtement que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est qu'on est là un petit peu sur une scène médiatique qui vise à nous diviser, qui vise à faire en sorte qu'on ait peur les uns des autres et qu'on prête les pires intentions aux uns et aux autres. Je le vois, moi, dans mon militantisme, et pourtant, à Rennes et en Ille-et-Vilaine, on n'est pas sur des territoires particulièrement sujets à l'extrême droite, au Rassemblement National, on est même plutôt chez nous en tant que socialistes.
Terre de gauche, hein, on le dit, Ille-et-Vilaine.
Exactement, et même la Bretagne, social-démocrate, complètement. Et pourtant, il n'empêche que quand on fait du porte-à-porte ou du tractage, j'ai quand même un petit peu peur de la réaction de la personne en face, parce que même moi, en fait, finalement, à force d'évoluer dans cette époque, on finit par... Par se dire, est-ce que l'autre va être contre moi? Est-ce que l'autre va... Parce qu'en fait, on croit finalement tout ce qu'on entend, et je pense qu'on a une vraie fracture. Et c'est ça qu'il faut viser à atténuer un petit peu pour construire quelque chose.
Voilà, la fracture sociétale qui touche les jeunes. Alors justement, on parlait tout à l'heure, on avait promis d'y revenir, de la situation sociale actuelle, de cette fracture de la société et de son impact sur les jeunes. Par exemple, on peut imaginer, vous aviez évoqué un petit peu du bout des lèvres, mais on va pouvoir peut-être l'évoquer un petit peu plus précisément, sur l'emploi, sur le logement, sur l'avenir aussi, sur la formation, sur l'éducation. On a l'impression que ces piliers ont tremblé, que l'édifice s'est un peu écroulé. Faut reconstruire tous ces trois piliers, au moins le logement, l'éducation et puis évidemment l'emploi.
Oui, alors il faut les reconstruire vite, il faut les reconstruire bien, il faut les construire en ayant conscience que les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas forcément les enjeux de demain. Non, c'est quand même une charge de travail qui est assez colossale. Après, il faut les reconstruire, ça veut dire que ça a été détruit, ça veut dire que ça a déjà été construit. Et donc, il faut qu'on se rappelle aussi, nous, je pense, en tant que... C'est dur aussi, mais en tant que jeune, et surtout en tant que jeune socialiste, le parti dont on hérite et ce qu'il a été capable de faire par le passé, et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Alors, on n'est pas un climat politique qui nous est favorable. En revanche, il y a quand même une très, très grande fierté là. C'est qu'il y a eu, dans le cadre du projet de loi de finances qui est largement débattu, pour la première fois, trois amendements des jeunes socialistes qui ont été portés par des députés socialistes en négociation. Voilà, évidemment, la scène politique escalée, et ça rend compliqué l'adoption de ces amendements, mais c'était sur pour l'augmentation des APL, le maintien des APL pour les étudiants étrangers internationaux, et une aide supplémentaire pour le logement. Donc ces choses-là sont, si je peux dire, dans les tuyaux, on y travaille, on n'a pas lâché ce terrain-là. C'est que les dirigeants aujourd'hui n'en veulent pas, ce sont des choix politiques, ce sont des choix parfois, comme on disait, démagogiques, ne veulent pas de ces solutions-là, mais les solutions, on les a et on y travaille. Et on est une génération, je trouve, qui est très intéressée, et aussi, enfin, moi je suis admirative du travail de mes camarades qui sont très techniques sur des sujets, qui arrivent à produire des amendements d'une très grande qualité, à tel point qu'ils puissent être portés par nos députés socialistes. Et donc les solutions sont là, les solutions existent. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est être au pouvoir pour les appliquer.
Voilà, alors justement, la conquête du pouvoir, on le voit aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de la société qui est très fracturée. C'est un petit peu à l'image aussi, l'un et l'autre, l'un et ou l'autre, du pouvoir politique. On le voit aujourd'hui, Emmanuel Macron qui finalement continue à s'accrocher à un pouvoir alors qu'il y a une forme un peu crépusculaire. On le voit, les différents partis politiques. Et c'est faux pour la gauche, hein. On a du mal à se mettre d'accord. On pense à LFI, il y a quand même une grande fracture entre LFI et le Parti Socialiste, par exemple. Ça peut être dangereux, cette fracture, pour les prochaines échéances, si tout le monde part en ordre dispersé.
Ouais, complètement. Alors, il y a deux choses, et je pense qu'il y a un petit peu deux échelles. Il y a la scène politique nationale, où effectivement, on a un Parlement et surtout une Assemblée nationale qui ressemble à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui, donc tripartite et puis complètement figée, avec effectivement un président de la République qui... c'est un peu la formule consacrée maintenant, mais renie le résultat des urnes du nouveau Front populaire. Donc on a un peu un climat qui fait qu'il y a un peu une volonté de paralysie, puis on voit bien dans le choix successif de Premier ministre, il n'y a pas une volonté d'aller de l'avant, pas une volonté de faire quelque chose, et je pense qu'on va devoir, comme on peut le dire trivialement, tanker ça jusqu'en 2027, les élections. Donc là-dessus, je pense qu'il faut qu'on s'enrichisse, nous, sur le travail de fond, sur les revendications, sur le programme qu'on peut porter, pour ce qui est de la scène politique nationale, puisque là, jusqu'en 2027, je pense qu'on va suivre le tissu comme ça, en toile de fond.
Il reste 15 mois. Ça va être long, ces 15 mois ?
Oui, alors ça va être long. Oui, parce que c'est un peu une expression, là, chez les jeunes en ce moment, on dit dans la France de Macron, trois petits points, et ça veut tout dire, quoi. Dans la France de Macron, c'est dur de vivre, c'est dur de manger, c'est dur de tout. Donc oui, c'est dur, 15 mois, quand on n'a pas de quoi remplir le frigo, quand on travaille dur et qu'on a à peine de quoi se payer un logement décent, quand on n'a pas de logement décent, d'ailleurs, voire pas de logement du tout. Donc oui, ça va être long, 15 mois, dans la France de Macron. En revanche, d'un point de vue parti politique, c'est très rapide, 15 mois, pour sonder les Français, pour sonder son propre électorat, pour construire, reconstruire quelque chose, ça peut aller très vite. Et c'est là où on en vient finalement à la deuxième échelle, c'est cette question d'union de la gauche qui un peu brûle les lèvres et le rapport entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Honnêtement, pour moi, je n'ai pas grief contre la France Insoumise en tant que telle. Vous savez, je me suis engagée chez les jeunes socialistes, pas très vieille non plus, mais plus vieille que certains de mes camarades qui rejoignent très très tôt. Et en fait, en 2022, il me semble, j'ai assisté à un meeting de Jean-Luc Mélenchon et j'ai été très convaincue par le propos. J'étais pas encore adhérente au Parti Socialiste à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh, c'est fort ce qu'il fait ce monsieur, c'est fort ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. Résultat, j'ai voulu aller dans le parti où il avait tout appris et dans le parti où lui avait fait sa carrière et pour moi la plus noble partie de sa carrière. Bon, depuis, il a pris des positions, il a soutenu des gens dans ses propres rangs qui ont des positions qui sont très problématiques et qui me dérangent et qui dérangent énormément de personnes d'ailleurs. Mais j'ai pas de grief contre la France Insoumise en tant qu'organisation de gauche. En revanche, la France Insoumise a des griefs contre le Parti Socialiste, et c'est même la raison d'être de la France Insoumise que de vouloir un petit peu détruire le Parti Socialiste. Et sans tomber dans ces querelles-là, je pense qu'on a un devoir, nous, partis de pouvoir aussi, de dire, voilà, on met ça sur la table, on a cette force-là, les jeunes socialistes, on est la première organisation de jeunesse de gauche. Et le Parti Socialiste est en train aussi de reprendre reprendre du galon, d'aller de l'avant de nouveau. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit très clair, nous, sur ce qu'on propose, sur ce qu'on veut. Et on le voit dans beaucoup de communes et dans beaucoup de discussions qui sont faites. Je pense à la réunion de Bagneux, à plein de moments, même aux universités d'été, de l'après, du Parti Socialiste, des jeunes écologistes, enfin des écologistes tout court d'ailleurs. Cette union de la gauche, elle existe. Et elle est faite et la porte est ouverte à tout parti de gauche. En revanche, il faut vouloir faire l'union de leur côté à eux et il faut vouloir gouverner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Allez, il nous reste 5 petites minutes. J'ai envie de vous entendre sur les municipales, évidemment. Vous arrivez quand même à discuter avec les autres jeunes des défis, par exemple, lorsque vous êtes à Rennes, en tractage, par exemple ?
Alors, on s'entend humainement très bien avec eux. Ce sont des jeunes qui ont aussi une culture politique, qui ont des revendications. Et en fait, finalement, sur le fond... on n'est pas si éloigné. On porte quand même des combats qui sont assez similaires et qui se rejoignent. En revanche...
C'est un peu les frères ennemis, quoi.
Ouais, c'est ça, oui. Alors, les frères ennemis, il y a quand même un truc très asymétrique où on essaye, nous, d'ouvrir la porte et qu'eux nous la claquent à la figure en disant qu'on ne l'a pas ouverte. Donc, il y a un peu un truc... voilà, c'est... on se chamaille quand même beaucoup. Après... là, la campagne, les municipales, la campagne a été lancée. On est évidemment l'Union de la Gauche derrière Nathalie Appéré. Il y a deux listes insoumises actuellement à Rennes. Je pense que les rapports vont se distendre de fait par question de timing politique, d'agenda politique. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Ça n'entrave pas tout le respect, toute la considération que j'ai pour ces jeunes insoumis qui restent des camarades. En revanche, je pense qu'il faut aussi se rappeler que Rennes, c'est une bulle. J'en parlais avec un camarade costard mauricain. Je lui parlais de LFI, parfois un peu les crasses ou les yeux de travers qu'on avait parfois en tant que socialiste ou dans les manifestations, tout ça. Et il me dit, et je voulais son avis là-dessus. Et il me disait, mais tu sais, la réalité, c'est qu'il n'y a que à Rennes que vous avez ce genre de problème, parce que dans le vrai monde, nos combats, ce n'est pas la France insoumise. Nos combats, c'est le Rassemblement national, c'est l'extrême droite. Et je pense qu'on a cette chance à Rennes aussi parce que c'est une ville très à gauche avec un très bon bilan aussi qui est porté par l'équipe sortante, qui fait que on se déchire à la gauche. J'espère peut-être naïvement aussi que au moment où il y en aura besoin, ce qui je l'espère pas non plus le cas à Rennes, tant la ville voilà reste fidèle à son électorat classique à gauche. Mais j'espère que quand il y aura besoin, une nécessité, comme ça a été le cas à l'été 2024, au printemps 2024, que la France insoumise saura être un peu raisonnable et revenir dans le giron, quoi.
Avec un risque d'alternance, on voit le centre droit, on voit la droite aussi qui progresse dans les intentions de vote, hein, on l'entend un petit peu. Il y a quand même ce risque-là, et puis le RN qui est en embuscade aussi.
Oui, effectivement, après honnêtement, pour moi ça c'est des faux problèmes aussi, oui parce qu'il y a toute une sphère médiatique qui est propice à ça, ces questions-là, on en parlait, de sécurité, d'immigration, de narcotrafic, qui sont des questions qu'il faut se poser, mais que l'équipe de Nathalie Appéré, l'équipe d'Union de la Gauche à Rennes se pose et agit pour, il y a quand même un très bon bilan. Qui est loin de négliger les questions de sécurité.
C'est ce que lui reproche pas. Par contre, la droite, en disant, voilà, le bilan n'est pas bon, finalement.
Ah, forcément. Mais là, ça, on va rentrer dans la période des tacles et et un peu aussi, peut-être presque, de la malhonnêteté intellectuelle pour gratter des voix. Et on en revient, finalement, à ce qu'on disait au début, c'est qu'en fait, aucun terrain de lutte doit être laissé à la droite, à cette droite-là, très autoritaire, très réactionnaire. Et donc, il faut qu'on prouve que nous aussi, à gauche, on sait aller sur ces questions de sécurité et qu'on est fort sur ces questions de sécurité et que ce n'est pas l'apanage de la droite, bien au contraire.
Un dernier mot, je vous avais promis d'en parler, la place des femmes en politique. On me reproche parfois ici dans la matinale de ne pas recevoir assez de femmes au micro. Aujourd'hui, on va faire mentir un petit peu l'adage. elles arrivent, les femmes, aujourd'hui, la jeune génération, votre génération.
Oui, alors elles arrivent, j'en suis heureuse. Nous arrivons et j'en suis très fière. En revanche, c'est vrai que, un peu à l'image de toute la société, il y a cette question-là dans les partis aussi de la place des hommes qui ont tout de suite une place plus grande, plus indue, là où une femme peut-être aussi jeune se sent moins de prendre sa place. Par exemple, on parlait de la place des jeunes sur les listes municipales. Chez nous, dans le 35, il me semble, il y a deux... peut-être trois femmes grand maximum qui sont candidates, qui veulent être sur des listes municipales. Là où des hommes, on en a 7 ou 8, enfin le double ou le triple. Donc il y a un ratio qui est encore à améliorer, effectivement. Après, je pense que la confiance qu'on doit donner aux femmes, la parole finalement qu'on doit libérer pour les femmes va permettre finalement aux femmes de prendre de plus en plus toute leur place dans la sphère politique et dans les mandats après.
En tout cas, elles ont leur place au micro de Bretagne 5, les femmes et les femmes qui s'engagent en politique, les jeunes femmes aussi qui s'engagent en politique. Et vous en êtes l'illustration même. Lisa Louanchy, je rappelle que vous êtes conseillère fédérale des jeunes socialistes d'Ille-et-Vilaine. Je rajouterai secrétaire nationale à la veille à la riposte.
Voilà, c'est du travail.
C'est du travail. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Vous avez très bien passé l'examen de passage de cette première radio et vous reviendrez au micro de la matinale.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Très belle journée.
Bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.